Amis fréquenceurs, bienvenue dans cette émission Fréquence Ciné. Alors non, nous ne sommes pas le 1er avril, et donc non, on fera pas de blagues dans cette émission, quoique un peu, si peut-être. Ouais, si, parce qu'on aime bien rire, on est des rigolards quand même. Dans cette émission Fréquence Ciné, l'émission qui se fait des films et bien d'autres choses, toutes les semaines sur Radio Coquelicot 99FM et radiocoquelicot.com en streaming et podcast. Une émission qui ne serait pas grand-chose sans les personnes qui sont autour de cette table, à savoir Clément. Bonjour Clément.
Bonsoir à tous, bonjour Jonathan.
T'as l'air en forme, hein?
Oui.
T'as l'air en forme, notamment, j'espère, pour nous parler d'un film que tu as vu.
Un film français.
Un film français.
Un film français, monsieur.
Tu l'as dit avec la voix des années 60, j'ai aimé ça.
Oui, parce que je vais parler d'un mec qui a connu les années 60.
Enfin, la famille a connu les années 60.
Ouais. Voilà.
Tu vas nous parler du dernier Blié.
Ouais,
qu'on voit exceptionnel. Et à tes côtés, il y a également Colas. Bonjour Colas.
Salut Jonathan, salut tout le monde.
Alors Colas, pas mal de choses à voir dans cette émission. J'espère que tu étais bien prêt, parce que on va parler du Festival Ciné en Herbe à Montluçon. On aura Jennifer Guérard tout à l'heure au téléphone qui nous en parlera. On en discutera avec elle tranquillement. On va aussi parler de Shazam.
Shazam.
Ouais.
Pas l'application.
Non, mais le super-héros de David S.
On a promis des blagues, hein. Attention. Oui, ça peut arriver n'importe quand dans cette émission.
Ça sera peut-être la seule après cette peine. Donc, grosse sortie du jour, film de super-héros oblige. Et puis, on aura l'occasion de vous parler d'encore plein d'autres choses. Et peut-être on fera quelques jeux comme on aime bien à la coutume.
Oui, on a un jeu pour vous à la fin, ça s'appelle Jean-Pierre Je n'ai jamais.
Non, commence pas. Ne commence pas.
Oh,
à
Dieu.
Non, il est pénible.
Écoute, t'as dit porte ouverte, blague, c'est bon. Hein.
Oui, on va. Ouais,
bah,
je vais garder le contrôle de cette émission si tu le veux bien. Pour l'instant, je vous propose qu'on attaque avec le code beau aussi.
Scene 1, Apple takes.
Silence.
Bref, j'aime le cinéma.
Alors si vous le voulez bien, Colas, Clément et vous, chers auditeurs, on va faire le tour des films à voir au cinéma, des films qui sont à l'affiche, certains qui ne sont peut-être plus à l'heure où nous parlons, mais qu'on avait peut-être envie de mettre en avant, soit parce qu'on a aimé, soit justement pour vous déconseiller de le voir dans toute votre vie. Oui, ça aussi, ça fréquence ciné. Vous allez parler, Colas et Clément, de La Grande Aventure Lego 2, que vous avez tous les deux vu.
Exactement.
Ensemble à Lyon.
Exactement.
En amoureux, c'est beau.
Non, exactement.
La Grande Aventure Lego 2. Alors moi, j'avais adoré le premier. L'effet de surprise de La Grande Aventure Lego, de tout ce que ça racontait derrière, de la morale, de ce qui se cache aussi derrière les jouets. C'était, j'ai l'impression de revivre un Toy Story de l'ère moderne. Est-ce que pour autant il fallait une suite? Ça, c'est la grande question que je me suis posée et à laquelle j'espère que vous allez m'accorder une réponse.
Eh bien écoute, tu poses bien, puisque alors le film il n'est pas mauvais, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être sur une redite, donc il y a moins cet effet de surprise. On reprend stricto sensu les codes du premier. C'est vrai que bon, au bout d'un moment, ça peut devenir un peu lourd. Moi, j'ai ri quand même pendant le film. Il y a quand même pas mal de vannes qui s'adressent encore, comme toujours, pour petits et grands.
On garde l'esprit
donc,
du premier.
Il reste efficace. Oui, je trouve qu'on non, mais on le conserve totalement. Non, vraiment, c'est bien. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est qu'on voit un peu plus les scènes en prise de vue réelle.
Je sais ce qui est gênant.
Ah oui.
Qui sont pour le coup très très mal joués. Donc
y a
du coup, c'est un peu gênant.
Il y a des enfants qui jouent au Lego et il y a la mère qui n'a aucune expression quand elle joue. Alors, toutes les phases en Lego, c'est super bien et tout, voilà. Mais comme il dit, les prises de vue réelles sont catastrophiques.
Tu sens qu'ils n'avaient pas de budget et qu'ils étaient tellement dans l'animé qu'ils n'ont pas fait de direction d'acteur du tout.
Ah ouais, c'est
pas une question de budget, je pense que c'est peut-être une question de choix artistique.
Oui, enfin, oui, voilà.
C'était très bizarre ce décalage, mais sinon, oui, après, on garde tous les codes, c'est très sympa. Après...
Il y a toujours une double lecture ou pas? C'est le cas pour le premier, la lecture vraiment très enfantine,
ouais,
très jouée.
Ouais, alors, il y a encore beaucoup de références à, forcément, à Marvel, aux super-héros, à tout ça.
Ouais.
Voilà, par exemple, à un moment donné, ils vont dire, tiens, on envoie Aquaman. Non, mais pas toi, on va envoyer le reboot de 2018. Tu vois, des trucs comme ça qui peuvent être compris que par des gens de notre âge. Donc, c'est vrai que c'est toujours assez sympathique.
Y a une morale qui reste la morale un peu classique de jouer ensemble et jouer pas séparément. C'est le but de ce que ça aille de faire Lego, mais
le générique qui était très inventif et je l'ai trouvé sympa. Ils ont fait intégrer dans le générique des photos de frères et sœurs qui jouent ensemble sur le générique de fin. C'était vraiment sympa. Mais après, si tu veux, moi, tu vois, ça fait un petit moment maintenant qu'on l'a vu, là, ce film. J'avais oublié que je l'avais vu, en fait. C'est-à-dire que le premier m'avait énormément marqué.
Très oubliable.
Quand je l'ai revu, le premier, je l'ai revu avec beaucoup de plaisir. J'ai fait vraiment, c'est génial. Et là, le deuxième, bah, en fait, un peu oubliable parce que voilà, il recycle un peu. Il est efficace, mais c'est juste que t'as plus de
surprises. J'ai préféré Lego Batman pour le coup.
Oui, c'est vrai.
Bah, qui est vraiment, qui avait beaucoup de références. Ah oui, c'est le même univers. De toute façon, Batman évoque le fait que lui, il a tourné un film solo et tout. Enfin, c'est forcément le même univers, mais c'est très sympa.
Ouais. Alors, La Grande Aventure Lego 2, on le comprend.
Mais amenez vos enfants.
Ce que j'allais dire,
aucun souci.
Ah non, mais allez-y. Vraiment,
ce que j'allais dire, c'est vous le conseillez.
Devant nous, on avait des parents avec leurs enfants. Les parents ont plus ri que les enfants, presque. Ben, les enfants aussi rient beaucoup, mais les parents étaient morts de rire. Donc,
c'est de plus en plus le cas quand tu vas au cinéma voir des films d'animation.
Ouais, c'est ce qu'il faut. Hein. Sinon, tu t'embêtes, quoi.
Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, les enfants sont moins expressifs que les parents.
Ouais.
Alors, je sais pas comment l'explique, mais quand j'avais vu tous en scène.
Peut-être la surconsommation de médias. Qui fait que les enfants sont moins surpris que nous, on a pu l'être quand nous, on était jeunes et qu'on avait beaucoup moins Internet ou des choses du genre.
C'est vrai, sur consommation d'écran. Ouais, je suis assez d'accord.
Parce que je crois que j'ai pris plus de plaisir devant Tous en scène que les enfants. Bah... Je me suis plus poilé devant Astérix et Le Domaine des Dieux.
Mais on
a
plus cette culture cinéma aussi, nous. Enfin, d'aller voir un film au cinéma que... C'est tout un sujet, ça. Attention.
Oui.
à garder pour une prochaine émission.
Comment le web et les usages numériques ont bouleversé un peu les pratiques de l'humour.
Est-ce qu'on se lance vraiment là-dedans ou est-ce qu'on attend une prochaine émission?
Non, on fait une prochaine,
une prochaine émission.
Ouais.
J'aime bien qu'on crée.
On garde un ou deux mois pour réfléchir quand même.
On crée en live. D'ailleurs, on peut faire une émission. On crée en live la suivante. C'est pas mal, ça.
On a déjà eu...
Donnez votre avis chez vous sur Facebook.
On a déjà eu des idées d'émission. On fait le brainstorming de l'émission.
On fait une réunion avec les éditeurs.
On va peut-être passer au prochain film que vous avez vu. Se filtrer.
Ouais.
Pour le coup,
on change totalement d'ambiance.
Ouais, alors là, vous m'en parlez, mais avec. Alors Clément, t'as eu des petites étoiles là. Enfin, j'ai vu que.
Ah, très très bon film.
Un excellent film.
Ça parle d'une jeune femme avec son enfant qui décide d'aller en Syrie pour aller aider. Elle se radicalise. Mais à la base, en fait, j'aime pas dire directement elle se radicalise parce que son but c'est d'aller aider ce qui pourrait les ses frères et les combattants. Ouais. Dans l'idée, c'est comme ça en fait. Et après, il y a
ce qui est souvent le cas dans la réalité aussi.
Mais oui, c'est ça que
l'idée c'est pas d'aller faire la guerre ou d'être dans une secte ou j'en sais rien.
L'idée c'est d'aller aider.
De contribuer à l'effort.
En tout cas, c'est comme ça qu'on vend aux personnes qui se font avoir.
Et c'est exactement ça dans le film. Et quand elle arrive là-bas, elle se rend compte de la réalité, elle se rend compte qu'elle n'a aucun droit, elle se rend compte qu'elle ne peut rien faire, elle se rend compte qu'elle est exploitée, et elle se rend compte surtout que son gosse qu'elle a emmené, on lui avait dit que jamais lui restera tranquille et tout. Au bout d'une semaine, il doit avoir une arme, et parce qu'il s'amuse avec une arme, du coup ils prennent des photos, ils la publient, etc. Et on voit toute la dangerosité du truc, et on voit aussi à quel point c'est dur de revenir en fait. C'est ce qu'ils disent à un moment, c'est que y a des hommes qui y sont allés, ils sont revenus en France parce que ils ont compris que c'était pas ce qu'ils voulaient. Bon, ils ont eu un mauvais quart d'heure de plusieurs années, je pense, avec les services français. Mais les femmes, il y en a aucune qui était revenue avant celle-ci. Et en fait, il y a toute une mission d'exfiltration, mais pas organisée par l'État français parce que l'État français ne peut rien faire. L'État français, la seule chose qu'il leur dit, c'est si jamais vous l'amenez jusqu'à la frontière tunisienne, nous on peut la récupérer. Mais derrière, il faut la sortir et il faut communiquer avec les personnes. Il faut que la personne qui est là-bas puisse communiquer et tout. Et il y a tous ces problèmes qui sont mis en avant. C'est très bien mis en avant, c'est plutôt bien joué et c'est très intéressant. Donc c'est un très bon film.
Clément,
tu l'as dit, Colas, il faut préciser que c'est une histoire vraie, donc ça prend d'autant plus d'ampleur, quand on le sait. Et c'est d'autant plus édifiant que ça se passe à peu près à l'époque en printemps 2015, c'est-à-dire juste après les attentats de Charlie Hebdo. On est en plein dans cette... Et en fait, c'est parfaitement révélateur de cette époque en France, de prise de conscience de toute cette réalité qu'on avait vue dans Le Ciel attendra, notamment, où on se rend compte qu'il y a des gens qui se radicalisent, des jeunes notamment, qui se radicalisent, qui sont endoctrinés et qui se rendent en Syrie sans que personne ne le sache, y compris le mari de cette jeune femme dont on parle. Et c'est très bien retranscrit par Swan Harlow, qui joue le mari de cette femme. Il y a Charles Berling aussi au casting. Il y a une palette d'acteurs, pas tous très connus, et là aussi c'est très bien, vraiment qui portent le film à merveille. Et au niveau de la mise en scène, on a un étouffement, une espèce d'étouffement, une espèce de malaise. On est avec les personnages, on est à côté d'eux, quoi qu'il arrive, que ça soit en France ou en Syrie, parce que on joue sur les deux tableaux dans les deux pays pendant tout le film.
C'est quoi, c'est un montage parallèle en fait?
Non,
c'est une histoire qui se déroule dans les deux. Mais d'un côté, en France, ils essayent d'organiser l'exfiltration. Il y a aussi des passages en Tunisie qui se passent, en Turquie, pardon. J'ai dit Tunisie tout à l'heure, c'est Turquie, excusez-moi. C'est Turquie, où ils essaient d'organiser. Et de l'autre côté, il y a la vie de cette femme et du coup, ça.
Alors pas parallèle, montage croisé.
Oui, parce que la femme étant en Syrie, elle est endoctrinée et le mari, lui, est en France et il ne peut rien faire. Il a besoin d'aide. Il sait pas comment faire parce que justement, il sait pas comment ça se passe. Mais vraiment, c'était édifiant.
Un dernier mot, Colas.
Il y a un truc qui est très intéressant avec ce film, c'est qu'on montre que toute cette guerre, ce n'est pas juste des méchants et des gentils qui se tapent dessus, mais c'est énormément de politique. Et on se rend compte qu'il y a des petits groupes qui sont sur place en Syrie, qui n'ont rien à voir avec Daesh ou etc., et qui en fait veulent bien aider, mais à condition que ça soit avec en partenariat avec l'État français, parce que eux, ils vont être reconnus et ainsi de suite. Et on se rend compte que c'est que des jeux de politique, et c'est malheureux en fait derrière. Mais un très bon film.
À voir. Dans mon top pour l'instant.
Peut-être un petit mot très rapide sur un autre film que t'as pu voir, toi Clément, Dragon Ball.
Oui, alors.
Super Broly.
Alors, un mot très rapide.
C'est pas un mot, c'est un cri. Hein.
Pardon, excusez-moi. Je résume trois quarts d'heure du film. C'est-à-dire qu'en fait, le film Dragon Ball Super Broly, c'est vous prenez un épisode de Dragon Ball et vous l'allongez sur 1h40.
Ouais.
Donc, du coup, si vous reproduisez à l'échelle, ça vous donne plutôt que 20 minutes de combat, vous avez trois quarts d'heure de combat et donc trois quarts d'heure de Goku, Vegeta et Broly qui hurlent. Et donc, au bout d'un moment, même moi j'en avais un peu marre. Derrière moi, il y avait un enfant qui était à fond dans le film qui était venu avec sa grand-mère.
Oh, waouh!
J'ai pensé à sa grand-mère. Je me suis dit, elle a vraiment beaucoup de courage. C'est une super grand-mère. D'ailleurs, je l'embrasse si elle m'écoute.
Elle est peut-être sourde.
Mais je pense qu'elle l'est à l'issue de la séance. Alors, sinon, outre mesure, le film est bien réalisé. Il respecte bien les codes de Dragon Ball, forcément. Et surtout,
il a séduit les fans. Hein.
Les fans et pas que, puisque gros travail de vulgarisation. Donc il est efficace, il vulgarise énormément l'univers, il fait un rappel des personnages, même principaux, même si on les connaît un petit peu. Donc c'est pas mal de se resituer l'histoire. Il le fait très bien, c'est divertissant. C'est un peu pénible les hurlements au bout de trois quarts d'heure, mais c'est pas mal, c'est sympa, voilà.
Et ben voilà, on a compris un peu vos avis, on a fait un petit tour de ce qu'il y avait au ciné à voir, et puis quand même de films d'animation là-dedans, hein, ouais, on était branchés ouais. Enfants. Justement, on va rester avec les films d'animation pour notre playlist musicale pour l'instant, avec le film Tous en scène, on en parlait tout à l'heure. Set It All Free, c'est interprété par Scarlett Johansson, et c'est pour vous dans Fréquence Ciné sur Radio Coquelicot, 99FM, radiocoquelicot.com. I followed my heart into the fire, got burned, got broken down by desire. I tried, but the smoke in my eyes left me blurry and blind. I picked all the pieces up off the ground. Do anything at all. This is my kiss goodbye. You can stand and hold and watch me fly.
Tous en scène, ou plutôt tous au poste pour suivre Fréquence Ciné sur le 99 FM et aussi tous sur vos ordinateurs pour suivre cette émission sur radiococlico.com en streaming et podcast. Et puis vous avez l'occasion aussi d'être avec nous sur Facebook, sur Twitter. Aujourd'hui, on va parler d'un chouette festival qui ne paie pas de mine peut-être, mais qui en tout cas est là depuis maintenant 31 ans. Le festival Ciné en Herbe, on en parle dans le Zoom sur. Et on en parle aujourd'hui avec vous, Clément, Cola, autour de la table, mais aussi avec notre invitée. Elle est au téléphone avec nous, elle est présidente de l'association Ciné en Herbe qui organise ce festival qui, vous allez le voir, a un lien très étroit avec un autre festival qu'on connaît bien sur Radio Coquelicot, c'est le Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand. Notre invitée, c'est donc Jennifer Guérard. Bonjour Jennifer. Merci d'être avec nous au téléphone. Alors, pour tout dire, à la base, Jennifer, on l'avait invitée pour venir dans l'émission et ça a été un petit peu compliqué, mais on arrive quand même à avoir Jennifer pour qu'on puisse parler de ce festival Ciné en Herbe. Peut-être un mot déjà sur l'association dont vous êtes présidente, Jennifer. L'association Ciné en Herbe, quelle est son ambition, quel est son objectif ?
Alors, son ambition, c'est la même depuis 31 ans, en fait. L'objectif, ce sont des rencontres, des échanges et très certainement une transmission entre professionnels et jeunes cinéastes amateurs.
Donc là, déjà, c'est une association où vous êtes tous bénévoles ?
On est tous bénévoles, complètement.
Donc, c'est-à-dire que ça marche forcément à l'envie, à la motivation et à la passion du cinéma ?
Exactement.
Alors, on va parler un petit peu de ce festival ensemble. Déjà, 31 ans. Est-ce qu'il y a une recette miracle pour que ça dure aussi longtemps ?
Alors, je sais pas s'il y a une recette miracle. Ouais, je pense que des gens passionnés qui se passent le relais comme ça. Alors, effectivement, c'est un vrai relais parce que, donc, moi, je suis chez Ciné en Herbe depuis 1995, quand j'étais moi-même élève au lycée Madame de Staël en section cinéma audiovisuel.
Ça existait déjà en 95, cette section?
J'ai jamais vraiment lâché Ciné en Herbe et voilà, et j'en suis présidente depuis 2 ans et c'est tout un honneur. Voilà.
Donc, ça veut dire qu'il y a une section cinéma au lycée Madame de Staël depuis maintenant plus de 25 ans?
Depuis 30 ans.
Depuis 30 ans, c'est dingue.
1987, la section a ouvert. Et suite à l'ouverture de cette section, lorsque les élèves ont commencé effectivement à produire des films, et ben Madame Couturier, qui était la professeure de cinéma audiovisuel, s'est dit qu'il était vraiment dommage de laisser ces films étudiants dormir dans des armoires et de n'être présentés qu'à l'éducation nationale pour le baccalauréat. Et donc a décidé, avec beaucoup d'ambition, de créer ce festival Ciné en Herbe. Donc elle est allée frapper à la porte de Sauf qui peut le court-métrage de Clermont-Ferrand, qui sont donc devenus le partenaire principal de Ciné en Herbe.
Alors, sur ce festival Ciné en Herbe, il y a beaucoup de courts-métrages, on aura l'occasion de revenir dessus. Expliquez-nous déjà un petit peu la collaboration avec Sauf qui peut le court-métrage, le festival de Clermont. Est-ce que Ciné en Herbe, le festival donc qui se base à Montluçon, est quelque part un petit peu l'antichambre de celui de Clermont? On voit qu'il y a beaucoup de courts-métrages qui sont passés là en février sur le festival clermontois et que vous reprenez pour ce festival en avril. Quel est finalement le lien qui vous unit?
Alors le lien, moi j'ai envie de dire qu'on est un peu le bébé de Sauf qui peut, ou alors au moins son petit frère. Et avec beaucoup de prétention, je dirais qu'à Ciné en Herbe, vous allez voir la crème de la crème de la compétition française, en tout cas, qui est à Clermont au départ, puisque nous on va faire notre marché, notre petit marché comme ça pour notre programmation pendant le festival international de Clermont-Ferrand.
Vous ne connaissez pas du tout la sélection avant Sauf qui peut, vous faites vraiment tout le marché là-bas.
C'est ça. C'est-à-dire D'accord. qu'on voit les 80, en gros, 80 films. On fait toute la sélection française sur les 5 jours. On est à Clermont. Donc, c'est-à-dire, quand je dis on, c'est le bureau de Ciné en Herbe. Donc, on est 3, hein, c'est très facile. Et les élèves de la section cinéma audiovisuel de Madame de Staël, donc les élèves de première, qui viennent toute la semaine aussi. Et donc, on regarde toute la sélection française. Et puis, chacun donne son avis sur les films et on fait ensemble la programmation.
Et j'imagine que l'ampleur du festival grossit d'année en année, parce que peut-être qu'il y a 20, 30 ans, il n'y avait que 10 films en sélection, et puis aujourd'hui, voilà, vous dites qu'on arrive à 80, donc du coup, chaque année, il y a de plus en plus de films qui sont faits par les lycées, et toujours plus de films en sélection.
Alors, les 80 films dont je vous parle, c'est les films professionnels qui sont à Clermont-Ferrand en compétition française. Après, au niveau des lycées, c'est encore autre chose.
D'accord, et on est sur quelle volumétrie, là, pour les lycées ?
Au niveau des projections dites scolaires, entre guillemets, hein, on présente, en gros, c'est à peu près 25-27 films maximum.
Et donc, c'est des courts-métrages qui vont être diffusés pendant les fameuses cinématogriffes.
Tout à fait, le mercredi, ouais.
Donc,
ouais,
mercredi ouais. 10 avril, 9h30 et 13h30, entrée gratuite au théâtre Gabriel Robin. Et donc, ça va être un festival dans le festival, puisqu'il y aura les projections dès le matin, avec une pause repas, tout ça. Et puis après, délibération du jury. Et dans le jury, vous avez pris des personnes qui ont travaillé sur des courts-métrages qui ont été diffusés à Clermont et que vous reprenez aussi pendant le festival.
Alors voilà, c'est un double échange, c'est-à-dire que nous le mardi on a les compétitions professionnelles, donc on ouvre deux compétitions professionnelles, donc avec les films qu'on a pris sur Clermont-Ferrand. De là, leurs films à eux sont jugés par le public de Montluçon, simplement. Et le mercredi, on inverse les rôles et les réalisateurs présents, donc des films en compétition le mardi, deviennent eux jury des films lycéens et collégiens.
Est-ce que les réalisateurs jouent le jeu? Est-ce qu'ils comprennent l'intérêt d'être jury pour des films lycéens?
Alors les réalisateurs, ils tombent toujours un petit peu des nues quand ils arrivent chez nous, et finalement, ils trouvent ça absolument génial de cette double confrontation, quoi. Voilà, ils aiment beaucoup et ils aiment beaucoup échanger avec les lycéens, avec les élèves, les collégiens également, parce qu'on a aussi des collèges qui se présentent au cinématographe. Et oui, bien sûr que les réalisateurs jouent le jeu, quoi. Et les réalisateurs, c'est pas forcément des réalisateurs d'ailleurs, il y a aussi des producteurs, on a des acteurs, selon les films, les personnes qui peuvent être présentes à Ciné en Herbe.
Voilà. Et est-ce que ces réalisateurs qui sont du coup maintenant professionnels arrivent à retrouver un peu sûrement l'enfance qu'ils avaient, ou ils essayaient aussi avec peu de moyens de...
Ouais, quelque part oui, parce que bien souvent maintenant, les réalisateurs qui viennent sur Ciné en Herbe finalement sont assez jeunes, on remarque dans l'ensemble, c'est assez jeune, et du coup ils ont quitté bien souvent les écoles il n'y a pas très longtemps. On a même des films qui sont des films d'école finalement, des films de fin d'études, de la FEMIS ou des choses comme ça, et du coup ils sont pas très très loin de nos lycéens qui passent le baccalauréat, quoi, à 6-7 entrées, ils se replongent un petit peu là-dedans, quoi.
Alors justement, vous dites que ça fait depuis 1995 que vous participez au festival, d'abord en tant qu'élève et maintenant en tant qu'organisatrice. Ouais. Est-ce que il vous arrivait de voir des jeunes talents s'éveiller, sortir du lot, peut-être pour en faire leur métier et peut-être pour être connus, en tout cas dans l'univers du cinéma français?
Oui, on a eu. Hein, là tout de suite, je parlerai de quoi? Mathieu Robin, par exemple, qui était élève à Madame de Stael de Montluçon, qui est devenue réalisateur et scénariste. Il y a Émilie Noblet, qui, elle, était étudiante sur un lycée de Clermont-Ferrand, et qui avait d'ailleurs été primée au cinématographe, et qu'on a retrouvée il y a 3-4 ans sur Ciné en Herbe en tant que réalisatrice professionnelle. Donc elle était encore super émue d'être invitée à Ciné en Herbe en tant que pro, alors qu'elle avait été lauréate en tant que lycéenne. Donc oui, il y a des noms qui ressortent, qui commencent à ressortir, ouais, bien sûr. Et puis de l'autre côté, on a aussi des noms, par exemple, de courts-métrages que nous, on va sélectionner et qu'on voit finalement apparaître au César, voire aux Oscars après, quoi. Donc c'est toujours beaucoup de bonheur, ouais.
La petite fierté. Les lauréats de Ciné en Herbe repartent avec un arrosoir d'or, pourquoi ?
Alors les lauréats ne repartent pas tous avec un arrosoir d'or. C'est-à-dire qu'on a des prix, effectivement. Donc il y a un prix pour ce qui est de la compétition professionnelle. On a un premier prix pour la compétition 1, donc c'est le prix du public. On a le prix public pour la compétition 2. Et l'équipe Ciné en Herbe, effectivement, nous remettons symboliquement notre arrosoir d'or. Donc le petit coup de cœur de l'équipe, voilà. Parce qu'on a quand même travaillé, 8 mois avec ces films de près ou de loin. Et voilà, il faut quand même qu'on remette un petit... c'est notre petite Oscar à nous, quoi. C'est notre arrosoir d'or, puisque l'arrosoir est le symbole de Ciné en Herbe.
D'accord. Et c'est pour faire pousser les films derrière, je suppose.
Et voilà, on arrose l'herbe qui va grandir, effectivement.
Voilà, des jeunes pousses qui ne demandent qu'à éclore et à se faire connaître dans le paysage du cinéma français, comme le disait Clément tout à l'heure.
Moi, j'ai une dernière chose à dire, c'est pas forcément une question, c'est que nous aussi, on a fait la section cinéma audiovisuel au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, et c'est vrai que j'aurais adoré pouvoir essayer de proposer des films dans des festivals comme ça, donc bravo à vous, et j'espère que ça va continuer longtemps.
Est-ce que vous diriez que Jennifer que cette section CAV elle gagnerait quand même à être un peu plus démocratisée en France, parce que c'est vrai qu'elle est pas présente dans tous les lycées malheureusement.
Non, elle est pas présente partout. Elle est même plutôt rare. Je pense que je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que le lycée Madame de Staël est une des premières. Blaise Pascal avait suivi. Et effectivement, oui, c'est pas présent partout. Alors après, c'est un problème d'éducation nationale. Et là, moi, ça va me dépasser un petit peu. Je vais pas m'engager là-dedans.
Bien sûr.
Mais effectivement, après, c'est problématique. Parce que jusqu'à maintenant, les élèves partaient sur des sections dites littéraires. Et quand ils arrivaient avec leur bac en poche, leur bac L, cinéma audiovisuel, et ben, ils s'aperçoivent aussi que les grandes écoles, par exemple, les BTS, toutes ces choses-là, leur sont fermées parce que eux, ils ont du L et on leur demande tout de suite des matières beaucoup plus scientifiques. Donc, ça a été problématique. Ouais. Alors, maintenant qu'il y a une réforme de baccalauréat, je ne sais pas comment ça va continuer. On verra.
Et ben, on regardera ça, on scrutera ça. En tout cas, Jennifer, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, et ça, on en est sûr, c'est que le festival Ciné en Herbe aura lieu du lundi 8 au jeudi 11 avril du côté de Montluçon. Ça se passe au cinéma Le Palace, au théâtre Gabriel Robin également, et puis aussi au lycée Madame de Staël, puisque le jeudi il y aura des conférences d'Antoine Lopez qu'on connaît sur Radio Coquelicot, puisqu'affichiste du Festival du court-métrage de Clermont, et également des masterclass de 10h30 à 16h. Et puis on ne pourra que recommander, Jennifer, à nos auditeurs de venir voir les films, puisque on a eu la chance d'en voir quand même pas mal, voire quasiment tous, de ce qui est sélectionné en compétition en ouverture, et on peut vous dire qu'il y a quand même de sacrées petites pépites. Merci Jennifer Guérard d'être passée parmi nous, je le rappelle, présidente de l'association Ciné en Herbe, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite que de réussir cette 31e édition. Merci à vous.
Merci.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Clément, on enchaîne avec toi, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir dans cette émission. C'est vraiment un beau festival, je vous invite vraiment à aller le voir. 31 ans en plus, ça se fête. C'est pas rien comme date. Toi par contre, Clément, je sais pas si c'est ta 31e critique, je pense qu'on est quand même à beaucoup plus.
Oui, un petit peu plus.
Un petit peu plus, s'il te plaît. Hein. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi?
On parle de Christian Clavier.
Waouh.
Les copains, accrochez-vous, car oui, aujourd'hui, on parle de Christian Clavier.
Non.
Mieux. Ah. On parle de Christian Clavier et Gérard Depardieu dans un même film.
Non.
Mais si. Non, alors, attends, ah. Je vous achève. On parle de Christian Clavier et Gérard Depardieu dans un même film d'auteur.
Waouh.
Alors, un auteur, oui. Ouais. Mais pas n'importe lequel, sinon l'un des trois plus vieux réels français encore en activité avec Godard, Monsieur Bertrand Blier, s'il vous plaît. 80 bougies au compteur et une passion intacte pour la caméra, quoique son truc à lui, c'est plutôt le langage des mots. Blier, en quelques mots, c'est 56 ans de carrière, c'est Les Valseuses et Buffet Froid, c'est le Grand Prix du jury à Cannes et 5 Césars en 1990 avec Trop belle pour toi. Un Oscar du meilleur film étranger pour Préparer vos mouchoirs, Le bruit des glaçons en 2010 et 9 ans plus tard, ce film qu'on voit exceptionnel. Deux hommes, Foster et Taupin, réunis autour d'un scénario qui leur dicte ce qu'ils doivent faire, comme pour tous les personnages de cette histoire. La première chose stipulée dans ce dernier, tuer un homme. Écoutez plutôt.
Je m'appelle Foster.
Moi c'est Taupin.
Est-ce que vous ressentez de la sympathie pour moi?
Aucune.
C'est dommage.
On aurait pu devenir copains.
On a rendez-vous.
Mais pourquoi on a rendez-vous avec lui?
C'est pour le tuer.
Mais pourquoi il va falloir?
Mais parce que c'est écrit dans le scénario!
C'est complètement con, cette histoire de tuer un mec. Nous venons pour vous tuer.
Moi, dans mon scénario, il y a écrit « Sors un flingue ». Comment vous faites maintenant?
Ben, on vous dit au revoir et désolé pour le dérangement.
Quel est le salaud qui écrit toutes ces conneries?
Mais j'en sais rien, moi.
Présentation du scénario.
Séquence 17. Dans 5 minutes, on boit une bière.
Il ne vous sert pas de bière.
Et pourquoi?
Les deux connards arrivent. Le patron leur dit, je ne vous sers pas de bière.
Vous vous foutez de notre gueule.
Amis de l'absurde, bienvenue dans l'univers de Bertrand Blier, un dialoguiste de renom qui a avant tout bâti sa carrière sur la provocation du spectateur avec une vision très sombre de l'existence humaine. Dans Convoi exceptionnel, Blier convoque les grands thèmes qui lui sont chers, à commencer par la mort, seul sujet qui vaut les détours selon le cinéaste, qui se revendique comme le successeur évident de Samuel Beckett, un titre qui n'est résolument plus approuvé. Et cette lecture alarmante, nos vies seraient contrôlées par une entité quelconque, à la manière d'un acteur se voyant dicter son histoire par un scénario, et nous sommes aliénés à celle-ci jusqu'à notre mort salvatrice. La vie nous enferme et la mort nous libère. Une double lecture de la vie et du cinéma furieusement déprimante qui atteint son apothéose quand Guy Marchand, producteur déchu, demande à Foster et Taupin « Vous connaissez la différence entre le cinéma et la vie ? Dans la vie, on meurt. Au cinéma, on peut pas mourir. » Passé ce drôle d'univers où l'on se plaît en tant que cinéphile à dresser des parallèles avec le cinéma, le film est néanmoins victime de quelques maladresses et de certaines lourdeurs que Clavier et Depardieu eux-mêmes peinent à rattraper. Sans parler d'un montage saccadé qui, s'il colle parfaitement à l'idée d'une lecture de scénario page à page, délivre un produit indigeste et maladroit. Restent ces moments de grâce vaillamment soutenus par certains personnages entre deux engueulades, comme une suspension dans le temps, soluble à son tour dans une œuvre qui se consume chaque minute passant. De ce film difficilement accessible, on gardera en mémoire ce duo de tête légendaire, Clavier, Depardieu, à se demander si ce n'est pas l'unique raison qui a poussé les cinémas grand public à le programmer. Pourquoi je dis ça ? Pour les trois personnes qui sont sorties de ma salle pendant la séance, qui visiblement ne s'attendaient pas à une telle confusion autour de Clavier et Depardieu. Soit, on peut les comprendre, mais c'est aussi le lot d'un cinéaste controversé que de ne pas plaire à tout le monde. Le prix à payer pour déployer tout son talent est l'expression d'un luxe fou, celui de pouvoir porter ses démons à l'écran à 80 ans et des bananes. Convoi exceptionnel n'est certes pas un film à mettre entre toutes les mains, en tout cas pas dans celle du grand public. Il parvient néanmoins à sauver la face grâce à la complicité bienvenue d'un duo Clavier et Depardieu et à quelques monologues en plan long d'un charme fou. C'est enfin un furieux cri d'amour au 7ème art, triste refuge du réalisateur depuis un demi-siècle avec désormais 20 longs-métrages au compteur s'il vous plaît. Des films compacts en l'ambition nulle, sinon celle de troubler leurs spectateurs, des œuvres absurdes qui jouent tout le temps mais ne trichent jamais, et qui finissent au bout du compte tous par exprimer le doux rêve d'un vieux brigand du cinéma, celui d'une vie qui se termine par un générique de fin. Bonne semaine à tous, moi je cinéphile.
Ah ouais, c'est vrai que ça vaut le détour, quoi. Je sais pas si c'est tant pour le réalisateur ou pour le duo, mais voir Clavier et Depardieu dans un même film, quoi qu'on en dise, moi ça me fait frissonner. Vraiment, ces deux ogres du cinéma français, ils ont beau cabotiner, ils sont bons.
Quoi. On avait pas ça depuis Astérix, quand même.
Mais moi j'ai toujours pas eu l'occasion de le voir et c'est vraiment un film qui m'intrigue. Moi j'adore les films qui ont justement un concept qui sort de l'ordinaire et ça c'est vraiment un film que j'ai envie de voir, mais il faut trouver le temps.
Quand on imagine qu'en 74, Blié sortait Les Valseuses, qui est devenu un film culte, et que derrière, il a fait tout un tas de films dans les années 70-80, Buffet froid, La femme de mon pote, Tenue de soirée trop belle pour toi, enfin... Ce mec-là, il a révolutionné la manière de filmer, la manière de penser aussi le cinéma, et de concevoir les films, et rien que pour ça, c'est beau, quoi. Sacré Blié.
Un grand homme.
Ah là là, tu restes dans nos cœurs. Tu le disais, Clavier, Depardieu, la dernière fois qu'on les a vus au cinéma ensemble, c'était un Astérix Obélix, Mission Cléopâtre.
Eh, quelle transition.
Et ouais. Et ça nous amène à écouter quoi ? Ben, ça nous amène à écouter une musique issue de ce film, et qu'on n'a jamais passé dans l'émission. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a une version de Walk Like an Egyptian à l'intérieur du film, signée Eric Mouret et Deep Forest. Et c'est pour vous sur Radio Coquelicot 99 FM. Nous aussi, on n'a pas peur, et nous aussi, on va vous décompenser. C'est rien que pour vous, dans votre radio. Et ça, c'est la petite ambiance made in Cléopâtre, hein. Made in Shabba surtout. Musique tirée d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre que vous retrouvez sur Radio Coquelicot 99FM, radiococlico.com. Vous êtes bien en streaming, vous êtes bien en podcast, vous êtes bien dans votre poste et vous êtes bien avec nous pour le mercredi, c'est sorti.
C'est de la merde.
T'es en train de pleurer d'admiration.
C'est scandaleux.
J'ai senti un truc.
J'adore.
Déboussolant, tragique et bouleversant à la fois. Ouais.
Clément, Cola, moi je vous propose qu'on attaque ce zoom sur les films qui sortent aujourd'hui par Shazam. Non, Clément, nous ne parlons pas de cette application. Pas tout de suite. Peut-être qu'on en parlera plus.
J'ai fait la blague une fois, je la refais pas deux.
Ouais, non, moi je préfère prévenir que gagner. Film de David F. Sandberg, c'est l'adaptation tout simplement de Shazam, alias dans certains comics de Captain Marvel.
Et oui, c'est ça qui est compliqué avec les droits, c'est que les noms changent et tout.
Mais on aura...
Et que, à la base, Shazam c'est le vrai Captain Marvel selon la mythologie, machin, bidule truc. Donc oui, c'est compliqué.
Et donc là, en fait, on est face à l'histoire d'un garçon de 14 ans qui découvre qu'il a le pouvoir de se transformer en un super-héros adulte en prononçant le mot magique,
mais Shazam!
Si tu pouvais avoir un super-pouvoir, tu prendrais lequel? Tout le monde dit pouvoir voler. Tu sais pourquoi?
Pour s'envoler loin de cette conversation?
Non, parce qu'un héros, ça vole!
Attends, t'as besoin de ta fausse famille pour te défendre.
Hé! Hey, les gars, je suis vraiment désolé.
Grouillez, grouillez! Chopez-le! Poussez-vous! Allez, allez!
Billy Batson, je te choisis comme champion. Prononce mon nom pour que mes pouvoirs se répandent en toi.
Monsieur, je connais pas votre nom.
Shazam.
Quoi, sérieux ?
Silence !
Ok, Shazam ?
Shazam, film de David F. Sandberg avec un casting plutôt inédit et un super-héros qui ne l'est pas moins au cinéma. Certains fans attendaient depuis un moment l'arrivée de ce film, d'autres non. Est-ce que pour vous c'est un super-héros qui va être à la hauteur de ce que doit être la maison de production qui suit derrière ?
Voilà, voilà. Le problème, c'est que Shazam, ça essaye de surfer sur la vague super-héros actuelle en faisant beaucoup trop de blagues. Et ça se voit rien qu'à la bande-annonce. Je n'ai pas vu le film pour l'instant. Mais on sent que ça va être que porté sur l'humour. Et que c'est pas ça qu'on recherche forcément au cinéma directement. Alors oui, peut-être qu'on peut passer un bon moment. Mais moi, j'ai envie d'avoir un vrai fond. Ils abordent le fait que t'as un mec qui découvre qu'il a plein de pouvoirs, mais qui sait pas lesquels. Ça, c'est encore plus marrant, je trouve. Mais plutôt que de jouer sur des blagues directement, pourquoi pas jouer un peu plus sur du comique, un peu plus de situation, où on va un peu plus découvrir avec le personnage vraiment ce qu'il peut faire. Et j'ai l'impression qu'il y a trop d'humour dans ce film. Donc pour moi, ce sera un non.
Moi, je dirais que ce qu'il a pour lui, ce film, c'est qu'il a une bande-annonce qui ne ressemble à aucun autre film de super-héros. Donc, on peut lui accorder ça, déjà. C'est-à-dire qu'on voit aucune clé de l'intrigue, si ce n'est 3-4 scènes marrantes, effectivement, où le super-héros fait des blagues.
Ou alors, tu fais comme en Chine. En Chine, ils ont fait un truc excellent pour la promotion. Je sais pas si vous l'avez vu.
Non.
C'est-à-dire qu'ils ont fait la promo du film avec une scène coupée. Donc une scène que vous ne verrez jamais dans le film.
Ouais, ce qu'a fait les Avengers aussi.
Oui. Non mais là c'était vraiment une scène coupée qui reviendra jamais, même dans deux versions longues, tout ça, tu vois. Et j'ai trouvé ça fort.
Mais justement, tu parlais d'Avengers. Avengers, je trouve que Avengers gère très bien l'humour, là où en face DC Comics crée des lourdeurs. Franchement, chaque blague qui est parue dans l'univers DC Comics, elle était rare et elle était lourde. Hein. C'est beaucoup plus subtil côté Marvel.
Il y a quand même eu Thor Ragnarok. Je trouve blague lourde, on y est.
Eh ben, je trouve qu'on est encore, on reste toujours assez subtil. Non, vraiment, je trouve qu'ils sont meilleurs. Et ouais,
assez
j'en ai marre pas.
Quand tu parles de l'anus de Satan,
ça
ok, je te l'accorde. Bon, s'il te plaît, revenir au sujet de Shazam, moi par contre, c'est un film qui me tente pas du tout. Déjà parce que l'écurie d'ici me séduit pas du tout depuis les dernières années. Et puis d'autre part, parce que même l'acteur qui joue
Zachary Levi.
Zachary Levi.
Chuck.
Qui joue Chuck, voilà, merci.
Dans la série du même nom.
Voilà, il m'inspire pas du tout non plus. Mais non, j'ai rien de plus à dire parce que la bande-annonce m'a pas du tout attiré et je vois pas ce que peut m'apporter super-héros que je ne connais pas et que je n'ai pas envie de connaître.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de s'intéresser à l'histoire. Et alors, je vais même aller plus loin, j'ai pas envie de m'intéresser au réalisateur. David F. Sandberg, donc réalisateur des films d'épouvante Dans le Noir et Annabelle 2, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de réalisateurs qui, justement, sont partis dans des genres, soit d'angoisse, soit thriller, tout ça, et qui ensuite passent aux films de super-héros, les grandes boîtes, les grandes prods les appellent pour ensuite faire ce genre de choses.
Faut bien commencer quelque part un jour, tu me dis.
C'est des réalisateurs, je pense aussi, qui, avec des films qui ont peut-être pas assez marché, des fois, et les studios, comme ça, bon, il y a eu une petite critique positive sur certains films, et du coup, le studio essaie de le récupérer, et après, ça reste un yes man. Les gros studios comme ça, c'est surtout des yes man.
Donc des mecs qui disent oui, quoi.
Oui, oui, c'est le producteur qui vont dire, bah, nous, on veut ça, ça, ça. Le réalisateur, il fait oui, mais non, t'as pas ton mot à dire, c'est nous, on dit, et tu mettras ton nom à la fin, quoi.
Bon, Shazam, ça dure 2h12 et ça sort aujourd'hui dans les salles. Moi, je le conseille. Personnellement, je pense que j'irai le voir par curiosité au moins. Et ça peut faire son petit effet. Je vous propose un autre film et là, je sais que Clément va me suivre sur celui-ci. Ça s'appelle Mon Inconnu. D'Hugo Gélin avec François Civil et Joséphine Japy. Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Alors, comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue?
Qu'est-ce que t'as, Raph?
Hein?
Depuis hier, t'es hyper bizarre.
Ça sert à rien, tu vas me prendre pour un fou.
Dis-moi.
Depuis hier matin, je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé.
T'es con.
Félix, je te jure que c'est vrai. Hier encore, j'étais marié avec Olivia. On était fous amoureux l'un de l'autre. Et puis j'écrivais des best-sellers dans un 300 mètres carrés, je faisais la coupe des magazines. J'étais invité au JT de 20h, j'avais une putain de vie. Et là, je me suis réveillé dans cette nouvelle vie où ma femme n'est plus ma femme.
Olivia.
Elle est devenue une des plus grandes pianistes du monde. Et elle me reconnaît plus.
Votre prénom, c'est...
Raphaël. C'est fou. C'est fou. C'est fou.
C'est
fou.
Fou.
Mon Inconnu d'Hugo Gélin, une comédie romantique, en tout cas, moi, comme je me plais à les aimer. Et je crois, Clément, que t'auras surtout des choses à dire par rapport au réal.
Alors, par rapport au réal, oui, et par rapport au casting aussi, parce que Hugo Gélin, moi, c'est un réalisateur qui est pas très connu, mais que moi j'aime beaucoup, qui a démarré, qu'on a connu avec Comme des frères, avec Pierre Niney, François-Xavier de Maison, Nicolas Dubochel, qui est un film très efficace que j'aime beaucoup personnellement, et il est dans cette mouvance de réalisateur français un peu jeune qui tente des nouvelles choses et qui apporte de la fraîcheur au cinéma français, à la comédie française et à la comédie romantique française, avec voilà, on l'a dit, un casting jeune: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Laverne. Je trouve que rien qu'à la bande-annonce, on a un humour qui marche. Alors le problème, c'est que on a un scénario qui est déjà vu, un mec qui se réveille du jour au lendemain, il a plus la même vie, sa femme n'est plus sa femme. Ok, soit, tant pis, on y va quand même.
Et moi, ça me plaît.
Et franchement, les vannes dans l'abondance, mais elles me font tellement marrer. Moi, je vais y aller, hein. Je vais y aller.
Ouais. Mais Hugo Gélin, c'est aussi celui qui avait fait Demain tout commence.
Et Demain tout commence avec Omar Sy. Ah oui, qui pour le coup était un peu en deçà, qui était beaucoup plus larmoyant, mais ça va, c'est de bonne facture.
Voilà.
Bah, je trouve ça assez intéressant. J'ai l'impression qu'il est pas sorti à la bonne saison, par contre.
C'est-à-dire?
Ça, c'est, bah, pour moi, c'est très clairement film juste avant Noël. Ça fait très, enfin, en plus, il y a des plans sous la neige et tout dans la bande-annonce, donc je sais pas, ça m'étonne qu'il soit sorti tout de suite. Après, il y a François Civil dedans, qui est quand même un bon acteur, qui est la grande révélation de ces dernières années, j'ai l'impression, pour le cinéma français.
Ah bah, là, surtout de ces derniers mois, Le Chant du Loup. Il a fait un autre film aussi, là.
Ouais, j'ai oublié le nom,
Les Enchaînés.
Mais 2019, c'est son année. Vous voyez, j'ai Première sous les yeux, le magazine Première, et ils ont titré directement sur la une, 2009, l'année civile. L'année François Civil.
Oh là là, c'est beau.
Ouais, bah attends, les journalistes, on a de l'imagination. Hein. Non, mais c'est pour dire que ouais, c'est vraiment son année.
C'est assez
hallucinant. Vous savez, ça sera l'un des acteurs dont on reparlera lors de l'émission du Nouvel An 2020.
Oui.
Vous savez, le premier janvier 2020, on en reparlera. On fera un acteur qui vous a marqué cette année, François Civil.
Puis on va le voir au César, hein, c'est sûr.
Ah, oui.
Ah, je sais pas si on le verra au César, mais en tout cas, c'est quelqu'un.
Ah, il sera dans la salle.
Le Chant du Loup est celle que vous croyez. Voilà.
Exactement.
Et Mon Inconnu, il avait même gagné le prix d'interprétation au Festival de l'Alpe d'Huez.
Ouais. Mais... Non, moi j'y crois ce film.
Non, moi, non, ça va être bien.
Moi, ça va être vraiment mon coup de cœur du mois d'avril.
C'est pas le genre de film de base qui m'attire, mais ça a l'air bien fait, ça a l'air sympa, ça a l'air intéressant.
Et pour que Colas dise ça d'une comédie française romantique,
ouais. Il en faut.
Et les temps changent.
Il devient sensible. On va passer très rapidement sur quelques autres films qui sortent aujourd'hui aussi. Il y a Chamboule tout d'Eric Laven. Eric Laven, c'est celui qui a fait Incognito, qui a sorti Barbecue aussi, ouais. Qui avait fait Retour chez ma mère. Et qui là, c'est Entiché d'Alexandra Lamy. C'est son troisième ou quatrième film avec elle déjà. Un réalisateur, acteur, voilà, une belle relation entre eux en tout cas. Et c'est l'histoire de Béatrice qui avait écrit un bouquin et qui raconte l'accident de son mari qui a perdu la vue et qui est atteint aussi de satiété. Il dit tout, il est imprévisible, il est sans filtre et il fait que bouffer. Voilà, et il raconte sa vie et notamment de la relation avec leurs amis, et ça va changer leur vie et la vie de tous leurs potes forcément. Voilà, donc ça va être un énorme chamboule-tout dans la vie de chacun. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Clément, je te vois plus là-dessus pour parler que Colas sur
ouais,
les films coraux.
Parce que ouais, exactement, c'est film choral, film de potes, film français. Ouais, moi c'est un truc qui me tente. Je pense que je vais aller le voir vraiment parce que Eric Laven, oui, même si Barbecue était bon, voilà, était sympa. Ouais. Voilà, Incognito était très très bon, vraiment.
J'avais beaucoup aimé.
Et on est un peu sur les petits mouchoirs du pauvre. Voilà, peut-être un peu moins grave. Mais non moins efficace, avec une palette d'acteurs qui je trouve le choix est bon en fait. Là où sur Barbecue on était sur du Jérôme Commander, sur du, enfin c'est pas,
ça marche,
je remets pas en cause le
truc, ça marche, mais
je sais pas, on cherchait le bankable vraiment à tout, ouais, prix, le mec qui fait rire. Là bon, ok, on a mis José Garcia, mais je trouve que l'acteur, le choix de l'acteur est peut-être un peu plus fin, je trouve. On a un choix d'acteur qui a l'air justifié.
T'as
jusqu'à
quand même...
mettre Michael Youn, ouais, qui joue le mari de Anne-Marie Vin dans ce film, et ça peut fonctionner.
Et puis t'as Mélissa Doune, t'as Michel Viermoz, t'as Olivia Cotte, enfin c'est voilà, tous cumulés comme ça, ils cumulent quand même des millions d'entrées, hein.
Et la bande annonce fait rire, moi j'irai, ouais.
Eric Laven, juste Eric Laven, physiquement, c'est le sosie parfait entre Eric
Elmasino
et François Cluzet.
C'est un truc de fou.
Tout comme José Garcia, c'est
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Mais c'est dingue. Ouais, il faudrait qu'il le fait exprès de se relooker exprès comme Downey Jr. Ou alors c'est l'inverse.
Il y a un film dans lequel il jouait, je sais plus lequel, où il est à la neige ou je sais pas quoi. J'ai vu, ah bah non, j'ai fait mes...
Touchous.
Mais attends, mais...
Et à fond aussi.
Mais non, mais... Ah mais... J'étais pendant toute la bande-annonce, j'étais à merde, mais c'est qui? Et je dis, ah bah non, c'est José Garcia.
En fait, c'est faux, c'est Robert Downey Jr. qui a copié le style de José
ça,
Garcia.
Exactement. Ouais,
mais sinon, moi, le film me tente pas, là.
Ah oui, c'est vrai.
Ok, parlons d'un autre film très rapidement. Il y a La lutte des classes. Oui, tu voulais dire?
Bah, il y a quand même Anne Dirwar qui joue Guenièvre, c'est elle, je crois. Hein.
Ah oui! Tu joues dans Kaamelott.
Qui joue Guenièvre dans Kaamelott, rien que pour ça. Quand même, Colas.
Effectivement.
Et qui fait donc partie du casting de Chamboule-tout.
Voilà, pardon, excuse-moi.
La lutte des classes, aussi film de Michel Leclerc avec Leïla Bekti, avec Edouard Baird, Ramzi Bedia. Je peux même vous dire que c'est un film dont on a été les premiers à en parler sur Radio Coquelicot, puisqu'on avait eu Laurent Capelluto en interview et qui est second rôle dans ce film et qui nous avait parlé un petit peu de La lutte des classes de Michel Leclerc. Et ça a l'air d'être quelque chose d'assez sympa aussi, mais notamment par rapport à la relation des parents avec l'école. Voilà, je sais pas trop sur quoi on nous amène. Je sais pas si c'est un terrain politique ou de la comédie pure, mais à mon avis ça peut être sympa, notamment au vu du style et du casting.
On nous amène sur un terrain d'actualité qui est celle de qui est celui dans plein de mairies en fait en France. Je pense qu'il y a le débat, ne serait-ce qu'à la cantine, voilà, quand j'ai plusieurs menus, voilà, j'ai un menu halal, un menu sans porc, un menu voilà, donc on est au cœur du sujet. On est sur des familles recomposées avec Edouard Baird qui lui est d'origine sûrement catholique, enfin d'origine, je vais pas commencer là-dessus parce que ça va mal se passer, et Leïla Bekti qui elle est musulmane. Donc déjà rien qu'au niveau de la famille, on a l'histoire de la France aussi actuelle,
ouais.
Donc oui, il y a un parti pris politique mais tourné sous un angle assez marrant, et forcément quand tu mets Edouard Baird là-dedans, ça peut que être léger et ça peut que bien passer. Et je pense qu'on va avoir vraiment ce mercredi 3 avril un bon cru français. Voilà,
quand même
trois comédies françaises qui sortent, qui vont bien nous faire rire à mon avis.
Et puis vous avez aussi Curiosa qui sort, là ça va être plus intime, plus d'auteur, on va dire, de Lou Jeunet. C'est l'histoire de Marie de Hérédia qui épouse le poète Henri de Régnier, et ils vont vivre en fait une relation très amoureuse, très passionnelle, très érotique, à travers une liaison photographique et littéraire. Donc c'est un drame historique si vous voulez, mais bon, à voir. Mais il y a Noémie Merlant et il y a une belle affiche.
Et il y a re-Benjamin Laverne, qui joue aussi dans Mon Inconnu. Le mec se tape deux films en
mercredi. C'est François Civil.
Moi, j'ai une triste nouvelle pour le cinéma français, parce qu'on a appris il y a deux jours que la production de Kaamelott, ça y est, s'était arrêtée, il en avait marre. Je sais pas si vous avez eu passé l'info.
Tu l'as vu le 1er avril. Hein.
Ouais, ce lundi 1er avril, Alexandre Astier a annoncé qu'il arrêtait la production de Kaamelott.
Non, voilà. Tu nous auras pas, désolé. Messieurs, le mercredi, c'est sorti et clos. Moi, je vous propose une petite pause musicale très rapide avant qu'on passe au jeu du jour. Ça s'appelle Powerful Stuff. C'est interprété par The Fabulous Thunderbirds et vous le retrouvez au film
Cocktail.
Powerful stuff. Naga hat skirt and black stack heels, red cap ahead, dig a wicket's on a reel. Sure enough, powerful stuff. Old man Atlas holding up the world, he dropped everything for that girl. Sure. Full stuff.
Vous êtes bien dans votre émission Fréquence Ciné qui n'est pas tout à fait finie. Il nous reste 5 grosses minutes. Juste le temps de faire un jeu avec vous.
Bonjour, on va jouer à un jeu.
Alors aujourd'hui, Clément, Cola et vous, chers auditeurs, vous le savez, on en a parlé, Shazam sort au cinéma. Ok, c'est un film où le super-héros a le pouvoir d'aller super vite, un peu comme l'appli Shazam en fait.
Oh,
okay.
C'est original.
Qui en a sûrement tiré son nom, une application connue pour reconnaître très vite les chansons. Mais imaginons que c'est l'appli qui aurait donné son nom au super-héros. Bon, en fait, son super-pouvoir aurait été juste d'être super fort au blind test.
Ouais.
On est d'accord juste là.
Ouais.
Du coup, le principe est simple, je vais vous donner un nom de super-héros fictif lié aux applis, à vous d'en inventer le super-pouvoir.
D'accord.
Okay. Je vous donne un nom, vous allez comprendre. Ok, si par exemple je vous avais dit Shazam, là vous auriez dit, bah, c'est un mec qui est super fort au blind test. Okay, ok.
D'accord.
On va juste faire un petit essai de buzzer. Clément, ton buzzer.
Miep.
Ok. Cola, ton buzzer.
Miep.
Ouais, c'est bon. Cola, c'est bien clair pour les deux.
C'est génial.
Donc celui qui buzz, prend la main.
On peut le dire quand même, on fait les buzzers à la bouche. Okay.
Hein. Je crois que ça s'entend.
Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Attention, premier super héros, Instagramman.
Miep.
C'est un mec, à chaque fois qu'il sort une photo, il est classe. Toujours. Et il a une vie. Genre, il se réveille toujours parfaitement beau et tout. C'est son super pouvoir, c'est d'être toujours beau.
C'est vrai, c'est un super pouvoir.
Je peux dire un truc?
Ouais.
C'est un mec qui met des filtres automatiquement. Genre, il regarde un truc, il met des filtres. Ça lui plaît pas, il passe en noir et blanc ou en sépia.
En sépia.
Tu vois?
Le sépia, c'est un truc.
Voilà.
Ça, c'est un mot que tu utilises juste pour les filtres.
Et du coup, il va sur des tournages et il fait la balance des filtres.
Ça marche. Alors deuxième du coup.
C'était quoi le... Il n'y a pas de bonne réponse.
Non mais on laisse jouer l'imagination. Deuxième, Snap Captwoman.
C'est une meuf, elle se téléporte toutes les 7 secondes, en fait. Ah merde, c'est Vine. Ça marche aussi, mais.
Ça marche aussi.
Et après,
aussi.
Par contre, des fois, elle se téléporte dans un univers où elle a une tête de chien, ou des grosses lunettes, ou quand elle parle, ça vomit de l'arc-en-ciel. Ouais. Et voilà.
Non, c'est une meuf, quand tu la rencontres, tu bois un verre avec elle, mais elle reste là que 12 secondes. Après, elle s'en va.
Attention, un prochain Black Tinder.
Oh, c'est dur. C'est un mec. Bon, déjà, il est black. Il croise les gens dans la rue, il les swipe, c'est pour marcher comme ça. Il fait plap, plap, il les repousse avec le bras comme ça. C'est très radiophonique ce que je suis en train de faire. Vous avez compris? À droite, à gauche, tu vois.
Qui nage.
Il dit toi, je te veux, toi, je te veux pas. Mais pour marcher, c'est mieux.
Et en fait, c'est à un moment, il y a un combat iconique avec un méchant.
Bah oui.
Et à la fin, il est obligé de choisir entre le bien et le mal, donc savoir s'il le garde ou s'il l'enlève. Et c'est tout le choix du film. Et je vous conseille vraiment ce film derrière.
Attention, le bon coin man.
C'est un mec, c'est lui la brocante. C'est lui la brocante en super héros. Sauf que, genre, il arrive, t'es là, mince, il me faut un radio réveil. Le mec arrive, boum, je te l'achète tout de suite pour 5 euros, pas cher. Et pas cher en plus.
En fait, le mec, dans sa vraie vie, en fait, son vrai nom, dans sa vraie identité, c'est Jean-Michel Petite Annonce, dans la compilation du chanteur inconnu Calmerade.
Ça marche. Attention, un prochain Super BNB.
C'est un mec, il a des apparts comme ça, et quand il veut, il peut se téléporter, claque d'un doigt, il se téléporte d'un appart comme ça, en Turquie, en Asie du Sud-Est, où il veut, boum, il y a plein d'apparts, et pour pas cher en plus.
C'est un mec qui se transforme en bed ou en breakfast. En BNB.
Attention, un prochain, Deliveroo Man.
Mip. Il est capable de te livrer à bouffer chez toi en moins de 30 secondes. À vélo,
c'est fort.
Comme E.T. E.T.
manger maison.
Il paraît même que Deliveroo Man, c'est le frère de ça. Saruman.
Oh. C'est beau.
Elle a un tout petit dernier. BlaBlaCar Girl.
C'est une meuf. C'est un taxi. Il connaît tous les petits coins. Il va partout.
Tous les petits bars.
Tous les
coins noirs.
C'est une meuf qui est super forte. Elle conduit et elle t'emmène où tu veux. Et il y a un film très très connu.
Elle a un GPS dans la tête, quoi.
Voilà, elle est obligée d'amener son ennemi juré d'un point A à un point B. Et elle sait pas comment faire pour ne pas le faire vu que c'est son métier. Donc voilà.
Non, moi je crois que c'est plus pointu que ça. C'est plus BlaBlaCar Woman. C'est plus une meuf qui parle tout le temps. C'est une voiture, une voiture qui parle tout le temps. Tu vois.
Est-ce qu'on n'est pas en train de créer le FCU? Les fréquences signées univers.
Bah, si.
Il y a de l'idée. Après la maison du Mordor.
Moi, je me mets bientôt au film d'animation en Lego, je vous fais ça. Hein.
Ouais. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que j'entends ça.
Et c'est non, toujours très radiophonique.
Non. Oui, mais ça sort bientôt d'ici 6 okay. mois. Ouais. J'ai tout le matériel, bientôt. Il faut plus que le temps. Et ça, c'est autre chose.
Ouais. Bon, et bah écoute, on va essayer de trouver le temps. Et en tout cas, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on sera là la semaine prochaine. Dans cette émission.
Ouais.
Et on va vous parler de plein de choses. Et notamment, on parlera d'Agnès Varda. On n'a pas le temps d'en parler cette semaine.
Oui, c'est
D'ici
vrai.
D'ici là, portez-vous bien. Continuez de nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et comme le dit notre adage,
cinéphiles bien.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Charlot, c'est des fraises. C'est des fans.
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
C'est cela, oui.
Vous, au moins, vous risquez pas d'être un aigu, puisque même un artichaut du cœur.
Pas de bras, pas de chocolat.
Cap ou pas cap.
Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
Ah, ça va couper, chérie.